Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Le débat est déjà actif dans ce studio, puisqu'Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin.
Bonjour à vous Jean-Christophe Fromentin. Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. C'est fini, donc la France renonce à l'Expo Universelle, le grand projet, comme disait Yves Calvi, que vous portez à bout de bras depuis des années et des années. Vous l'avez appris quand et comment ?
D'abord, je pense que ce n'est pas la France qui renonce à l'exposition universelle. C'est le Premier ministre qui, tout seul, de manière assez lâche, renonce à l'exposition universelle. Lâche, que c'est votre question, vous l'avez appris comment ? Je l'ai appris par un tweet du JDD samedi soir, alors que depuis 7 ans, nous sommes des centaines à travailler sur ce grand projet pour la France, en prenant soin, vous voyez, de ne pas faire appel à l'argent public. Justement, en essayant de le construire avec toutes les forces vives d'un pays. Et donc je l'apprends par un tweet, couvert par un appel du directeur de cabinet du Premier ministre dans la foulée, en me parlant d'une lettre que toute la presse semble avoir reçue, mais que
vous
je n'ai toujours pas reçue.
La lettre qu'Édouard Philippe a adressée à un certain nombre, Pascal Lamy par exemple, qui était le délégué interministériel sur le projet, que j'ai moi-même d'ailleurs entre les mains, vous ne l'avez pas ?
Personne ne m'a envoyé la lettre. Personne, à ce jour, à cette heure, ne m'a envoyé la lettre. J'ai eu le droit à un coup de fil après que ça ait été annoncé et envoyé à la presse. Je trouve la méthode d'une lâcheté, d'une déloyauté, d'une indignité par rapport à la fonction de Premier ministre et à la considération qu'il peut avoir vis-à-vis de tous ces gens, tous ces jeunes, tous ces acteurs qui, depuis 7 ans, travaillent sur l'Expo universelle.
Et vous voyez, souhaité que le Premier ministre vous appelle en personne, comme il a d'ailleurs appelé certains élus après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Ça aurait changé quoi ?
Je crois que il y a beaucoup plus d'égards pour ceux qui menacent et qui cassent à Notre-Dame-des-Landes que pour les dizaines, les centaines de personnes qui, avec moi, avec d'autres, bâtissent ce projet d'Expo universelle. Et ce que j'attendais, c'était au moins, vous voyez, peut-être 3 minutes, 5 minutes, une conversation téléphonique, un appel. En septembre, j'ai saisi le Premier ministre en disant « Monsieur le Premier ministre, pour bâtir cette expo, il faut que vous confirmiez la ligne 18 sur sa clé qui avait été choisie avec l'État. Il n'y a eu aucune confirmation, aucun engagement de prix. Simplement, le président de la République qui a sa clé il y a un mois a dit « On fera cette expo ». À Saclay, et ce que je remarque dans cette expo...
C'est le site qui avait été retenu pour l'exposition universelle. Autrement dit, juste sur la forme, vous trouvez que, pour dire les choses familièrement, c'est pas très classe, la façon dont on sait, c'est pas très élégant.
Oui, c'est pire que ça.
Ça traduit du mépris, et vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme de lâcheté. Un contact avec l'Élysée ?
Non plus, aucun contact. Non. Personne n'a pris le soin de d'émettre le moindre contact, le moindre échange, la moindre explication.
Ça traduit quoi ?
Ça traduit, je pense, une espèce de condescendance de cette grande technocratie, vous voyez, qui gouverne finalement. Le politique, les entrepreneurs, ceux qui imaginent, qui créent, qui fabriquent, qui prennent des risques, sont maltraités par une technocratie qui, du haut de ses cabinets ministériels, de cette grande administration, distribue les points, évalue, met des notes et ne savent pas traiter cette France qui innove, qui prend des risques et qui essaye d'avancer.
Vous dites, j'avais alerté moi-même les pouvoirs publics sur la faisabilité de la ligne de métro. On y reviendra, qui est indispensable effectivement pour Saclay. Le Premier ministre aussi vous a finalement alerté, puisqu'il a envoyé une lettre fin septembre pour dire qu'il souhaitait avoir des détails extrêmement précis sur la solidité financière du projet. Il a eu le retour, effectivement après une analyse du Trésor, et le retour qui date du 18 janvier et dont les conclusions figurent dans cette lettre que vous dites ne pas avoir reçue, elles mettent en avant des faiblesses structurelle sur le financement du projet.
Vous savez, Elisabeth Martichoux, je rendrai public tout à l'heure, lors d'une conférence de presse, tous les éléments qui élevaient dans ce rapport. À la fois la question qui nous était posée, dans une lettre effectivement du Premier ministre fin septembre, début octobre, et les 60 pages de réponses qu'on a formulées avec les meilleurs experts, les meilleurs économistes, pour dire 3 choses.
Oui, que juridiquement, après, il y a eu l'analyse du Trésor qui dit justement, les éléments ne sont pas solides.
Écoutez, moi je suis prêt à en débattre en public avec le Trésor, que j'avais vu le vendredi 13 janvier, sur notamment le sujet juridique, puisque le Trésor trouvait que le modèle économique tournait. Sur le sujet juridique, il voulait une étanchéité totale entre l'organisation de l'exposition universelle et l'État. Puisque l'État, à la différence des JO, entre parenthèses, ne voulait prendre aucun risque juridique, aucun risque économique.
Mais vous aviez promis tout aussi que c'était autofinancé par le privé, à la fois avec la billetterie et à la fois avec des grands sponsors.
C'est exactement ce qu'on a prouvé dans ce rapport qui a été remis le 29 décembre au Premier ministre. On en a redébattu à Matignon dans le cadre d'une réunion du groupement d'intérêt public. On m'a demandé quelques questions complémentaires, notamment de tester un modèle avec moins de visiteurs, avec 25 millions de visiteurs, quand bien même... Avec l'État, nous étions mis d'accord pendant l'été.
25 millions de visiteurs, c'est une probabilité. Milan, il y a eu combien de visiteurs la dernière exposition?
Juste pour bien comprendre, avec l'État, on s'était mis d'accord sur le chiffre de 34 millions de visiteurs. Sachant que les experts nous disaient qu'il y aura entre 45 et 65 millions de visiteurs. Milan, c'était 20 millions de visiteurs.
C'est beaucoup moins.
Mais si vous voulez, si l'ambition du gouvernement, de l'État, de la France... ne va pas au-delà des succès touristiques de la Lombardie, on peut s'interroger. La France est la première, Paris est la première destination touristique au monde. La Lombardie n'est pas dans le top 20. Donc il faut comparer des choses comparables.
Oui, mais Jean-Christophe Fromentin, excusez-moi, je mets tout sur la table, mais c'est vrai que les promoteurs de ces grands événements exagèrent souvent les prédictions. Il y a eu des exemples célèbres, il y a eu Rio par exemple, on disait que Rio, les JO, ça allait apporter 0,4 points de PIB, 600 000 emplois, pendant des années, ça n'a pas été le cas. Il y a ce risque quand même.
Sauf que dans notre dossier, il y avait plusieurs sécurités. D'abord, une sécurité juridique, dans la mesure où on avait construit un modèle qui ne mettait pas en risque juridiquement l'État, fort de dispositions de droit international qui permettaient de le faire, puisque le BIE autorise, le Bureau international des expositions, autorise l'État à déléguer à une personne morale privée l'organisation de l'Expo universelle. On avait validé ce point-là. Ensuite, on était parti sur un modèle économique dégradé. On avait même calculé le point mort de faisabilité à 25 millions, c'est-à-dire à peine plus que Milan. Et encore une fois...
Et à 25 millions, autofinancement...
À 25 millions de visiteurs, tout était financé. Et il n'y avait aucun risque économique. Alors on peut toujours dégrader, vous voyez, pour faire une exposition qui ne s'en ressemble plus à rien. Mais comparons ce qui est comparable et ayons un peu d'ambition.
Alors
ne faisons pas d'exposition universelle.
Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce renoncement? Le Premier ministre dit qu'il y a un risque budgétaire. Nous, l'État, compte tenu des finances publiques, on ne veut pas pallier. Par exemple, Milan, il a fallu 1,5 milliard, je crois, que l'État mette pour combler le budget. On ne va pas mettre un sou. Il ne croit pas à votre projet. Vous dites pourtant, il est absolument solide. Alors c'est quoi?
Vous savez, l'État.
C'est quoi la raison?
L'État avait annoncé le Grand Paris Express avec un budget, je crois, de 25 milliards.
Grand Paris Express, pour nos éditeurs, c'est le super métro.
C'est le grand métro du Grand Paris. Et on avait besoin de ce grand métro. Et l'engagement de l'État, du président de la République, était que ce métro serait au rendez-vous de l'exposition universelle de 2025. Or, ce grand métro, l'État n'a pas su le programmer et le chiffrer, puisqu'il y a déjà, avant même qu'on ait commencé à creuser, 10 milliards de dérives. Et je crois qu'il est là le sujet. C'est-à-dire que ce que l'État n'a pas réussi à faire avec le métro du Grand Paris, il l'impute à l'organisation de l'exposition universelle. Et moi, ça fait des mois
Ça veut dire que
est-ce que cette ligne 18, qui est le tuyau nécessaire, vous savez, nous la garantir pour 2025? Je n'ai jamais eu la réponse et je vous parie que l'État ne sera pas capable, cette semaine ou la semaine prochaine, d'annoncer qu'effectivement, la ligne 18 sera au rendez-vous de 2025.
On attend d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, l'arbitrage de l'État sur cette affaire. Sans ligne 18, Jean-Christophe Fromentin, il n'y a pas d'exposition universelle. Et vous dites, l'État déguise finalement son impuissance à financer la ligne 18 en annulant l'expo universelle, c'est ça ?
L'État essaye effectivement de faire porter par l'Expo la responsabilité de son annulation, alors que je suis convaincu que l'engagement qu'on réclame à l'État depuis des mois, c'est est-ce que cette ligne 18 sera construite pour l'Expo universelle, sur lequel on n'a jamais eu de réponse, sera déterminant, est un élément déterminant pour cette annulation.
Jean-Christophe Fromentin, c'est irréversible ?
Non, encore une fois, c'est la décision du Premier ministre et peut-être d'une petite équipe de technocrates. Moi, je pense que voilà, le 19e a montré que des grands promoteurs, des grands ingénieurs, des grands artistes savaient monter une expo universelle sans demander l'autorisation. Et c'est comme ça qu'on a fait les grandes expos universelles. C'est finalement pas en ayant des subventions de l'État, c'est en pariant sur les Français. Vous savez, la Tour Eiffel a été financée par des centaines de milliers de Français qui ont mis chacun quelques francs dans la Tour Eiffel pour réussir. Moi, je ne désarme pas, vous voyez. Je pense que la France et les générations et nos enfants n'ont pas besoin d'une France qui abandonne, qui renonce, qui recule. Ils ont besoin d'une France qui avance, qui ose. Et donc, j'essaierai de le faire en prenant mes responsabilités avec ces entreprises qui me soutiennent depuis 7 ans, avec toutes ces...
C'est un préjudice pour elles,
Français qui...
Pour elles,
non, parce que... voilà, elles intervenaient en mécénat et elles acceptaient la prise de risque. Mais en tous les cas, je ne lâcherai pas cette affaire comme ça. C'est aussi une question de fierté de la France vis-à-vis du monde. Et c'est un signal à des générations auxquelles on laisse 2000 milliards de dettes, un tempérament comme ça de renoncement. Et la France n'est pas un pays qui renonce.
Notre-Dame-des-Landes, Expo Universelle, ligne 18, si c'est le cas, la France recule ou elle fait des choix clairs ?
Non, mais je pense que là où le Premier ministre se trompe, c'est qu'il a fait du recul, du renoncement et de l'abandon une méthode de décision. Or, décider, c'est agir, aller de l'avant. Ce n'est pas faire trois pas en arrière dès qu'une difficulté s'impose à lui.
Jean-Christophe Fromentin, qui ne désarme pas, nous dit-il sur RTL. Merci à vous d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Il n'y a plus d'égard pour les casseurs de Notre-Dame-des-Landes que pour les élus et les entreprises qui ont porté le projet d'expo universelle, vient nous dire le maire de Neuilly. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Et je vous annonce que demain mardi, François Molins, procureur de Paris, en charge des dossiers antiterroristes, sera l'invité de notre radio dès 7h35.